9h27 minutes, je regardais les sujets potentiels avec mon invité ce matin en disant, OK, Christian Bégin, je lui parle de quoi? T'as rendu à 4 pages à peu près de trucs, de projets passés, de projets actuels, de projets à venir. Christian Bégin, bonjour.
Bonjour, Paul.
Vous êtes super occupé.
Ouais, la vie est foisonnante en ce moment professionnellement. C'est une période, comme je vous disais hors d'onde tantôt, il y a des matins, je me pince puis je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis je peux juste constater avec gratitude que c'est une période généreuse. On me propose des choses enthousiasmantes, pleines de sens. Ouais, fait que là, je prends le train. Tu sais, moi, ça a été 34. Ça fait 34 ans cette année que je fais ce métier-là. Puis c'était 34 ans qui se sont bâtis année par année. Tu sais, il n'y a jamais eu des fulgurances, moi, dans mon métier. C'est des études. Il y a eu même des périodes de grande accalmie, de désert complètement. Mais ça s'est bâti au fil des ans. Puis là, on dirait que en ce moment, il y a comme une espèce de momentum, je sais pas trop.
Mais à la fois, il y a l'acteur, c'est sûr,
ouais.
Il y a l'animateur également,
ouais.
Bon, une implication, on va parler du Salon des métiers d'art,
ouais.
Il y a de la mise en scène pour des humoristes. Vous touchez à beaucoup de choses aussi.
Oui, mais ça a été une façon, c'est une des affaires dont je suis particulièrement content, c'est qu'en diversifiant mes activités, j'ai empêché le fait qu'on m'enferme dans une boîte, puis il y a souvent ça dans le métier qu'on fait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé Curieux Bégin, les gens me disaient « fais attention, tu vas devenir un animateur », puis les gens vont te cataloguer comme un animateur. Mais moi, tu sais, j'ai une compagnie de théâtre, j'écris du théâtre, j'ai toujours multiplié mes activités pour justement faire en sorte que je sois pas cloîtré dans une affaire, que je sois pas identifié à une seule chose. Puis j'ai réussi donc à échapper à ça au fil des années, puis aussi le fait que c'est un petit milieu, tu sais, puis il faut diversifier nos activités, parce que on peut pas être juste une chose, on y arrive pas, tu sais, il y a pas assez de travail pour ça, je pense.
Commençons par le Salon des métiers d'art.
Ouais.
Bon, je pense que c'est le dernier à la Place Bonaventure.
Oui, c'est la dernière année à la Place Bonaventure, c'est le 67e, je pense, une affaire comme ça. C'est
64e.
64e, bon, merci de me corriger.
Mais... En quoi il évolue, le Salon des métiers d'art? Parce que moi, j'ai des souvenirs, évidemment, quand on venait étudiant, là, tu sais,
oui.
Puis visiter, puis là, OK,
oui.
T'avais les classiques, des gens, des artisans qui débarquaient à Montréal pour...
Oui.
Bon, comment ça a changé?
Bien, ça change comme le monde change, c'est-à-dire que les métiers d'art, c'est pratiqué par des jeunes maintenant, de plus en plus. Il y a beaucoup de relèves, il y a un grand, grand intérêt par rapport aux métiers d'art. Puis... faut justement se débarrasser de cette vision-là un peu folklorisante puis désuète de ce que c'est que les métiers d'art. Les métiers d'art sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a de l'ébénisterie, de la joaillerie, de la tannerie, il y a toutes sortes d'affaires. Mais c'est pratiqué par des jeunes avec des techniques modernes qui créent des objets qui répondent à nos besoins d'aujourd'hui. T'sais, on n'est plus dans la folklorisation. Bien sûr, là, en ce moment, tu vas rire, vous allez rire. Mais il y a un gros retour du macramé chez les millénarios en ce moment. Il y a un gros retour du tricot. Ouais, les millénarios, ça tricote. L'autre jour, j'étais allé à la soirée, étant encore jeune, sur un poste concurrent.
Oui.
Et il y avait des jeunes qui tricotaient pendant l'émission. Je veux dire, il y a un retour. La forge en ce moment, il y a la forge de Montréal qui est maintenue à bout de bras par des guerriers en ce moment. Mais il y a plein de jeunes et plein de jeunes femmes qui s'intéressent à la forge en ce moment. D'ailleurs, il va y avoir des ateliers tout au cours du Salon des métiers d'art donnés par les forges de Montréal. Fait qu'il faut vraiment comprendre que c'est un milieu qui est en évolution, qui est en totale résonance avec le monde dans lequel on vit, puis qui fait aussi office, je dirais, de mouvement de résistance devant un peu l'édulcoration des objets avec lesquels on s'entoure. Tu sais, souvent, quand
mais là, on
va,
est dans un contexte de Black Friday puis de commerce en ligne.
Ouais.
Arrive un salon où des gens comme ça qui travaillent de leurs mains pour faire des objets, des produits...
Oui.
Sont en compétition avec, disons, des produits industriels.
Oui, mais ça devient intéressant pour moi parce que s'entourer d'objets qui veulent rien dire, qui n'ont pas de sens, qui sont faits dans des shops par du monde qu'on ne connaît pas puis qui sont conçus pour nous péter des mains dans 2 semaines puis qu'on va crisser au bout de nos bras parce que ça ne marche pas, bien là, tout à coup, au Salon des métiers d'art, nous offre la possibilité d'aller chercher des objets qui vont être pérennes, qui vont traverser le temps, que je vais pouvoir donner à mon fils, qui va donner à ses enfants. Quand on achète, je prends toujours le même exemple, il va être tanné, mais quand on prend une poivrière de chez Arbol, ben, elle est faite pour durer des dizaines d'années. C'est pas comme les ponts qu'on construit, là. C'est fait pour durer plus longtemps.
Est-ce que c'est dur, le métier d'artisan? J'en connais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des agriculteurs, là,
oui.
qui vivent des moments difficiles, la relève
difficile.
Agricole.
Oui.
Bon. Pour les artisans, est-ce que c'est aussi difficile?
Ben, il y a une relève en ce moment qui existe, elle est réelle, mais on reste dans un contexte où les gens sont pleins de bonnes intentions, mais quand arrive le moment de passer à la caisse, on dirait que des fois, le pont se fait pas. Puis il faut accepter que lorsqu'on prend la décision d'acheter un objet créé par un artisan ou une artisane, ça va coûter plus cher que si on va au Dollarama. T'sais, au Dollarama, avec 50 piastres, tu vas sortir avec une quarantaine de cossins. Avec 50 piastres au métier d'art, tu vas sortir peut-être avec deux objets. Donc, le principe, c'est acheter moins, mais acheter mieux. Mais bien sûr, les artisans et les artisanes travaillent comme des déchaînés, comme des résistants pour tirer leur épingle du jeu, même si on sent que, tu sais, il y a une espèce d'effet de dessin en ce moment, là, de plusieurs petits marchés qui essaiment un peu partout à travers la province. Fait qu'on sent qu'il y a un intérêt grandissant, mais ça reste des milieux précaires, tu sais, parce que la compétition est forte, là. La compétition du cossin, là, est puissante en tabarouette.
La compétition du cossin.
Ouais.
Mais c'est vrai que le prix, c'est souvent l'élément...
déterminant.
Tu sais, je regarde avec les pâtés que tu as mis en marché, oui. Puis tes produits non, chez IGA, il y avait une différence.
Puis ça marche plus, là. Tu le sais que j'ai dû arrêter cette affaire-là, tu sais.
Mais il y avait une différence de prix entre le pâté Saint-Hubert, je sais pas, moi, puis ton pâté
à
toi.
Il y avait 15
piastres de différence. Le justifier.
Oui. C'est sûr que rendu à la caisse, c'est le prix qui parle. Donc, il y a une question d'éducation à faire, puis un changement d'attitude, nous, comme consommateurs, tu sais, le désir d'avoir plus de cossins et de surconsommer. Ben, ça nous mène vers quelque chose qui est, moi, je vais renommer ce terme-là, mais l'édulcoration du monde, c'est-à-dire de se rentourer d'objets, d'aliments qui goûtent rien, qui veulent rien dire. Moi, j'ai toujours dit, quand tu mets une face sur une carotte, ben, quand tu as compris que ta carotte a été cultivée par quelqu'un qui existe, que tu connais, avec qui tu peux avoir un lien, mais tu mets pas ta main dans la poche de la même façon. Mais c'est une éducation à faire quand même. C'est un changement de paradigme dans notre rapport à la consommation qu'on doit effectuer. Pour dire, ben, l'important, c'est pas tant d'avoir trop, mais c'est d'avoir mieux. Puis on sent qu'il y a un mouvement, il y a une tendance qui est assez lourde vers ça en ce moment. Je pense pas qu'on va retourner en arrière, là. Je pense pas qu'on va reculer, mais c'est pas gagné encore, tu sais.
Notre invité ce matin, Christian Bégin, je veux absolument parler de la série Fragile qui est présentée sur Point TV.
Ouais.
Tu joues le rôle d'un industriel dans une municipalité de taille moyenne du Québec, on peut dire ça, qui a son petit milieu, son élite locale.
Absolument.
Et ses intrigues. Je ne veux pas trop en dire. Comment t'as trouvé jouer ce rôle-là?
Je trouve ça extraordinaire. D'une part, pour continuer ce qu'on disait en début de conversation, je trouve qu'on m'offre des affaires que j'aurais pas cru pouvoir faire. T'sais, c'est-à-dire qu'on m'amène dans des places qui sont en dehors de mon casting. Puis ça me fait vraiment plaisir, tu sais. Puis, tu sais, je passe du trans dans M'entends-tu à un homme d'affaires assez, à la fois très intègre dans son travail, mais avec une vie personnelle un peu plus erratique. Fait que, moi, c'était comme une espèce de wet dream de jouer dans du Serge Boucher, là. C'est un auteur que je vénère. Je pensais que cette rencontre-là était pour se faire au théâtre, puis elle s'est faite à la télévision. En plus, dans un tandem incroyable, parce que Claude Desrosiers, qui est le réalisateur, et Serge Boucher ont formé une espèce de duo incroyable. Ils se connaissent, ils maîtrisent chacun. Ils ont une connaissance intime, chacun, de leur travail. Puis Claude, de l'œuvre de Serge Boucher. Puis Claude, il me connaît comme comédien depuis des années. C'est un ami depuis plus de 30 ans. Fait qu'il connaît mes béquilles, il connaît mes défauts de comédien. Il sait sur quoi je m'appuie.
Quels sont tes défauts de comédien?
Ben, des fois, de surjouer le naturel, mettons. Tu sais, des fois, on veut trop être naturel, puis on en met trop, on se met à faire un peu acteur studio, puis se taponner à la face pendant qu'on parle pour montrer qu'on est, tu sais, là, les gens me voient pas.
Mais moi, je te vois.
Oui, c'est ça. Fait que, puis Claude, il connaît mes tics de comédien. Puis il m'a amené vraiment ailleurs, dans l'économie, dans la sobriété. Puis si on regarde la distribution all-star de cette série-là, tout le monde joue dans le même show, tout le monde est tellement bon.
Mais ce que je trouvais, c'est qu'il y avait évidemment tout un côté psychologique, c'est sûr, mais il y avait un suspense aussi.
Absolument. Ça, c'est le génie de Serge Boucher.
Parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Tu peux avoir un truc très, très psycho, puis là, c'est intéressant quand même, mais de marier la psychologie, le suspense, qui est le père de...
Puis à chaque fois qu'on pense qu'on a trouvé, on se trompe. Et ça, c'est le génie de Serge Boucher, de nous amener sur une piste, puis on se dit « Ah, OK, ça va être ça », puis finalement, c'est pas ça, puis c'est pas ça non plus, puis ça sera pas ça, puis on va de surprise en surprise, de rebondissement en rebondissement, puis il fait toujours des êtres humains, il crée des êtres humains qui sont ni noirs ni blancs, tu sais, tout le monde est comme dans la vie, on est multiple, on est complexe, on porte le meilleur et le pire, puis tous ces personnages-là sont comme ça, tu sais. Puis ça le fait bien aussi de voir dans Fragile, des gens qu'on voit peu, tu sais, comme toute la gang de la famille de Martin Drainville, Valérie Blais, qui sont des gens qui vont danser des danses en ligne dans des bars country, tout ça, ouais, c'est ça. Mais on les voit peu à la télé, ces gens-là, tu sais. Puis de les mettre en opposition, justement, avec cette espèce de bourgeoisie un peu, bourgeoisie de pouvoir économique, là, ben, c'est le fun de voir comment ces jeux de pouvoir-là existent encore aujourd'hui, là, complètement.
Parle-moi de la série Les Mecs, qui va être présentée en 2020, White Male Again.
C'est pas White Male, hein, d'une part. On n'est pas juste des blancs.
Non, mais j'ai vu les commentaires.
Oui, on n'est pas juste des blancs, d'une part. Il y a Yannick Truisdel qui fait partie du Quatuor. C'est une série écrite par Jacques David, ça, qui va mettre en scène principalement quatre gars de la cinquantaine qui traversent la cinquantaine avec plus ou moins de facilité, de joie, avec plein de questionnements devant le monde qui change. Puis des fois, ils ont de la misère à comprendre et à s'adapter à la vitesse avec laquelle le monde change. C'est pas des hommes de Cro-Magnon, là. On va
non,
pas,
mais c'est pas, je suis toujours étonné de voir quand on annonce, par exemple, une série comme celle-là, avec le thème de la série, des gens qui critiquent, c'est même pas encore tourné, là, ou en tout cas...
Oui, c'est pour ça que moi, j'ai pas embarqué dans cette conversation-là.
Mais
parce
je trouvais
que moi,
ça
c'est
un peu élevé, là.
Ben, c'est une conversation qui a pas lieu d'être en ce moment, je trouve. Je vais accueillir la critique quand ça va sortir.
Ça, c'est
je vais vivre avec.
Mais c'est comme si on n'avait pas le droit de faire une série en 2020, là,
20,
impliquant quatre hommes dans la cinquantaine.
Moi aussi, ça me questionne. C'est-à-dire
que, un peu étonnant.
Ben, moi, je me questionne sur beaucoup de choses en ce moment par rapport à nos fragilités, à nos susceptibilités, puis au fait que les choses sont très à fleur de peau, puis il y a des choses qui s'expliquent, puis qui justifient, puis que je comprends, puis que j'entends. Mais en même temps, je trouve qu'on monte vite aux barricades en ce moment, je trouve. Puis on est vite...
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, on va vite, on est vite dans des mouvements d'attaque. Il y a beaucoup de tribunaux populaires, je trouve. Il y a beaucoup, avant même qu'on... Puis on l'a vécu avec Slav, on l'a vécu avec Kanata. Puis même s'il y avait des revendications et des questionnements légitimes, c'était quand même éveillé de voir des gens, mettons, devant la porte du TNM avec des pancartes écrites en anglais, là, pour la plupart, traitant les gens qui rentraient dans le théâtre TNM de racistes, mettons. T'sais. Je trouve qu'on est en train de tribaliser le monde. Alan Mink a écrit un essai dans les années 80, fascinant, un sociologue, qui s'appelait « Le nouveau Moyen-Âge », puis qui, d'une façon un peu visionnaire, parlait de cette tribalisation du monde là qu'on vit en ce moment, où on crée des tribus qui sont autonomes entre elles, qui se suffisent entre elles, mais qui sont plus capables... Des tribus, puis des églises aussi, tu sais, des églises de pensée qui fait que tout à coup, on n'est plus capable de se parler parce que on peut se trouver assez de monde qui pense comme nous. Fait qu'on on devient comme des espèces de mini-autarcies de pensée, puis on n'est plus capable de parler à l'autre, puis et ça crée beaucoup d'antagonisme. Puis moi, ça m'effraie. On parlera des mecs quand on les aura vus, puis peut-être qu'on comprendra que ces quatre gars-là, c'est pas des caves. Puis des fois, ils disent des affaires niaiseuses comme tout le monde, mais c'est du monde qui c'est quatre gars, puis il y a pas juste des gars, il y a des filles. Hein. Il y a quand même Nathalie Mallette, il y a Julie Ménard, il y a Linda Johnson. Ils ont pas des rôles accessoires dans la série, et ces gars-là vivent avec des femmes. Mais ils sont les protagonistes principaux de cette histoire-là, je dois dire.
Bon, écoute, il y a plein de choses, on n'aura pas le temps, là, mais il y a du monde à la messe de Noël.
Oui, qui s'en vient le 24 décembre de 10h à minuit. On va passer le cap de Noël.
Guignolée du Dr Julien en fin de semaine.
Le 14, oui, absolument, je serai là. Puis c'est partout à travers le Québec.
Puis là, je pourrais continuer, mais là, j'ai plus le temps.
Bien, ça a été un plaisir de jaser avec toi, Paul Arcand.
Christian Bégin, merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous aussi.
À tout le monde.
9h41, on fait la pause et on vient après pour la suite des choses. Tribune téléphonique, évidemment.